Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mardi 7 février 2023 et il est 8h.
La matinale info, Rudy Saada.
Ils sont 150 soldats et secouristes israéliens à être arrivés hier à Adana sur les lieux du séisme en Turquie, nom de l'opération Branche d'Olivier, pour venir en aide aux populations très durement touchées par cette catastrophe naturelle. Nous serons en ligne ce matin avec le lieutenant-colonel de réserve de l'unité de secours 669, Eric Setton. Il a participé à une opération similaire en 2009. Dans notre page israélienne, avec vous Emmanuel Adam, on parlera également de cette nouvelle localité dont la création a été annoncée hier par Benjamin Netanyahou.
Oui, elle sera installée à la frontière avec Gaza et rassemblera plus de 500 familles.
Comme chaque mardi, vous retrouverez la chronique santé du professeur Marc-Olivier Timsit. Et puis en fin de demi-heure, Jérôme Attal reviendra sur le 7 février dans l'histoire juive.
Aujourd'hui, je vous parle d'une expédition sans précédent dans l'histoire du peuple juif. 1564 rouleaux de la Torah arrivent à Londres.
Bonjour,
je vous l'explique en détail dans un instant.
Bonjour Margot Siffer.
Bonjour Rudy, bonjour à tous.
On commence donc cette matinale info par le journal.
Le journal Margot Siffer.
Une nouvelle secousse ressentie tôt ce matin en Turquie.
Une réplique de magnitude 5,6 a été enregistrée à 4h13 ce matin dans le sud de la Turquie. Le bilan du séisme d'hier ne cesse de s'alourdir. Dans le détail, en Turquie, près de 2900 personnes ont perdu la vie et plus de 14 000 ont été blessées. Quant à la Syrie, au moins 1440 habitants ont été tués et plus de 3500 blessés. Hier soir, 139 secouristes français se sont envolés pour Ankara. 150 soldats de Tsahal sont aussi arrivés à destination.
En Israël, premier vote de la Knesset sur la réforme judiciaire prévue la semaine prochaine.
Une réforme qui prévoit notamment que la Cour suprême n'ait plus le droit d'amender ni même d'annuler les lois fondamentales à moins d'obtenir l'approbation de 80% des juges. Les manifestations populaires contre ce texte ne faiblissent pas. Le débat public a également atteint un niveau de violence sans précédent avec notamment des appels au meurtre contre le premier ministre Benjamin Netanyahou.
Le secrétaire général de l'ONU craint que la guerre en Ukraine se dirige vers un conflit plus large.
C'est ce qu'il a déclaré hier dans un discours particulièrement sombre où il présentait ses priorités pour 2023. De son côté, le gouvernement norvégien a proposé le versement à Kiev de 6,8 milliards d'euros sur 5 ans, une somme qui s'ajouterait à une assistance pour les autres pays victimes des retombées du conflit.
Aux États-Unis, Joe Biden tiendra aujourd'hui son discours sur l'état de l'Union.
Il s'agit de la traditionnelle allocution de politique générale des présidents devant le Congrès, un Congrès cette fois-ci divisé puisque les Républicains ont la majorité à la Chambre et les Démocrates au Sénat. L'objectif, trouver un terrain d'entente et débattre des priorités des États-Unis.
L'otage français Benjamin Brière, détenu en Iran depuis mai 2020 pour espionnage, a débuté une nouvelle grève de la faim.
Oui, il aurait débuté le 28 janvier dernier. Il avait déjà observé une première grève de la faim de 35 jours. C'était en décembre 2021 pour protester contre ses conditions de détention. Au total, 7 Français sont aujourd'hui détenus en Iran.
En France, jour de grève, troisième journée de mobilisation contre la réforme des retraites aujourd'hui dans toute la France.
Le trafic sera fortement perturbé avec en moyenne un TGV sur 2 et 3 TER sur 10. Côté RATP, seules les lignes 1, 14 et 3 bis du métro circuleront normalement. Prévoir aussi un RER A et B sur 2 et un RER C sur 3. Quant au réseau de bus, il sera légèrement perturbé, mais la grève n'affectera pas le réseau tram.
Et puis on en sait aussi un peu plus sur la quatrième journée de mobilisation qui aura lieu ce samedi.
Les syndicats de la SNCF n'appellent pas à la grève. Ils demandent toutefois aux cheminots de participer aux manifestations sur l'ensemble du territoire. Une annonce qui intervient après la demande du ministre des Transports, Clément Beaune, de ne pas perturber les départs en vacances.
Et c'est dans la cacophonie que se sont ouverts les débats hier sur la réforme des retraites à l'Assemblée, et ce pour 2 semaines.
Environ 20 000 amendements ont été déposés, dont 13 000 par la France Insoumise. Elisabeth Borne s'est exprimée hier quelques minutes avant l'ouverture de ces débats.
Le débat parlementaire, c'est fait pour faire évoluer le texte, l'enrichir, et j'ai pas de doute que les députés auront à cœur d'améliorer ce texte. On a écouté, on a eu des mois de discussion, de dialogue avec les organisations syndicales et patronales. On a modifié notre projet pour intégrer notamment une proposition qui est votée depuis des années, chaque année, au Sénat. On a écouté aussi les attentes de notre majorité, les attentes du groupe Les Républicains, et on fait évoluer notre projet. On est à l'écoute.
Et de son côté, Gabriel Attal l'affirme, c'est la réforme ou la faillite. Le ministre des Comptes publics a également fustigé à gauche, je le cite, le camp de l'asphyxie fiscale et du blocage.
Ultime vote au Sénat aujourd'hui pour l'adoption définitive du projet de loi d'accélération des énergies renouvelables.
Le texte a comme objectif de faire rattraper à la France son retard sur les énergies renouvelables. Il entend notamment répondre à l'objectif fixé par Emmanuel Macron, à savoir multiplier par 10 d'ici 2050 la capacité de production d'énergie solaire ou encore déployer 50 parcs éoliens en mer.
Sortie aujourd'hui aux États-Unis du nouveau roman de Salman Rushdie, Victory City.
Une sortie qui intervient 6 mois après que Salman Rushdie ait été poignardé aux États-Unis. L'histoire se situe au XIVe siècle et raconte l'épopée historique de Pampa Campana, une jeune orpheline dotée de pouvoirs magiques qui va créer la ville Victory City, mais aussi subir l'exil et les menaces dans un monde patriarcal. L'écrivain ne fera aucune promotion pour présenter ce 15e roman.
Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale Info RCJ. Il est 8h06. Dans un instant, nous irons en Israël retrouver Emmanuel Ada. On parlera de l'aide israélienne apportée à la Turquie, mais aussi proposée à la Syrie, et également de la tempête Barbara qui traverse le pays. RCJ.
Best Fenêtre, vous connaissez? Oui? Non? Un peu? Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, baie coulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime Rénov.
Bonjour tout le monde, c'est Michel Vougenin, je suis sur RCJ et j'ai commencé à jouer les Adieux des Magnifiques au Théâtre de la Madeleine. Et vous savez quoi, je fais un grand kiff parce que c'est le dernier volet de la trilogie. Et qu'est-ce que je rigole avec les jeunes qui ont 20 ans aujourd'hui. La vérité, vous savez quoi, ils m'ont fait enregistrer ça 18 fois, j'en peux plus, je sais plus comment je m'appelle. Je vais téléphoner à ma mère, mais d'après elle, je m'appelle Michel Bougenat et je joue les Adieux des Magnifiques au Théâtre de la Madeleine et je suis sur RCJ et je suis très content et je suis très fatigué et c'est surtout eux qui m'ont fatigué. Je peux partir maintenant ?
Oui !
Merci !
Michel Bougenat dans Adieu les Magnifiques, actuellement au Théâtre de la Madeleine en partenariat avec RCJ. Infos et réservations sur théâtre-madeleine.com.
Gautier. Depuis 60 ans, j'incarne le savoir-faire à la française. Mes meubles sont tous garantis 10 ans et je propose en ce moment des réductions sensationnelles.
Mais oui, mon petit Gautier, bien sûr que je parle de toi.
Tu iras loin, mon petit Gautier, tu iras loin.
Du 11 janvier au 7 février, ce sont les soldes chez Gautier. Profitez de remises exceptionnelles sur une sélection de produits. Vous pourrez également profiter de nos conseils déco et découvrir votre projet d'aménagement en 3D. À très bientôt chez Gautier.
Gautier. 45 47 boulevard du Havre, 95 220 Herblay, 09 66 98 59 83.
Meublé, vivez.
Faites-vous connaître, faites-vous entendre. Ouvrez une vraie visibilité à votre entreprise, votre association, votre projet. RCJ est là pour trouver avec vous la solution clé en main. Spot radio, campagne publicitaire, publi-reportage, sponsoring d'émissions, nous serons à vos côtés pour élaborer ensemble la meilleure des stratégies pour vous faire connaître. Appelez notre régie publicitaire au 06 03 47 98 36. RCJ.
Bon réveil sur RCJ, il est 8h08, on prend maintenant la direction de Tel Aviv pour y retrouver Emmanuel Ada. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Rudy, bonjour à tous les auditeurs.
Emmanuel Ada, est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien. Bonjour Rudy.
Ah voilà, je vous entends, mais vraiment de loin. Alors Emmanuel, on en parlera dans les détails dans un instant. Une délégation israélienne est arrivée donc hier soir en Turquie, quelques heures après le tremblement de terre qui a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi.
Absolument, elle est arrivée donc en Turquie. Elle comprend 150 soldats de Tsahal. Elle est dirigée par le colonel Golan Var. Il s'agit de la 30e mission de l'unité de Tsahal au cours de ces 40 dernières années. Le nom de la mission, c'est Branche d'Olivier. Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël enverrait aussi une délégation en Syrie. malgré les rapports hostiles qu'entretiennent les deux pays. Mais la Syrie dément avoir...
Emmanuel Ada, on vous entend très mal, je crois que c'est un problème de micro de chez vous.
Est-ce que vous m'entendez mieux ?
Ah bah là je vous entends bien mieux, alors on va reprendre pour mieux vous entendre, on parlait donc effectivement de l'aide israélienne qui est arrivée hier soir en Turquie.
Oui, la délégation de Tsahal est arrivée en Turquie avec 150 soldats de Tsahal. Elle est dirigée par le colonel Golanvar. Il s'agit de la 30e mission de l'unité de Tsahal au cours de ces 40 dernières années. Et le nom de cette mission est Branche d'Olivier. Benjamin Netanyahou a annoncé qu'Israël enverrait aussi une délégation en Syrie, malgré les rapports hostiles qu'entretiennent les deux pays. Mais la Syrie dément avoir demandé de l'aide à Israël. Parallèlement, le ministère de la Santé a donné des consignes aux hôpitaux pour qu'ils se préparent à apporter une aide médicale à la Turquie, à envoyer également du matériel médical dès que le gouvernement le déciderait. Et puis le directeur du Magen David Adom, Eli Bin, a contacté son homologue du Croissant Rouge turc et lui a proposé une aide humanitaire et médicale.
Hanoun, c'est le nom de la localité que souhaite créer Benjamin Netanyahou près de la frontière avec la bande de Gaza.
Oui, elle portera donc ce nom. Elle sera construite à l'est du kibboutz Saad. Elle accueillera au début plus de 500 familles, mélangeant des familles religieuses et laïques. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui était initialement impliqué dans les projets de cette nouvelle communauté lorsqu'il était ministre du Logement, a décrit cette initiative comme la réalisation pratique de la vision sioniste. Il a également déclaré que le renforcement des communautés dans le Negev et autour de Gaza en ce moment envoie un message très clair face aux menaces qui pèsent sur la région. Nous établissons des communautés pour renforcer notre présence.
Et puis Israël se prépare à l'arrivée de la tempête Barbara. Elle devrait s'abattre sur le pays jusqu'à jeudi.
Elle est déjà bien là, Barbara, puisque aujourd'hui les experts annoncent que ce sera la journée la plus froide depuis le début de l'hiver. Les vents soufflent et sont extrêmement violents. Ils peuvent aller jusqu'à 100 km/h. La compagnie d'électricité a augmenté ses équipes sur le terrain afin de répondre au plus vite aux coupures d'électricité qui ont lieu. Dans de nombreux endroits, des arbres se sont déjà effondrés et ont fait des dégâts. Une jeune fille a été blessée à Or Yehuda suite à la chute d'un arbre. Un jeune garçon également à Tel Aviv, à Haïfa, un arbre est tombé sur une voiture et à Tirat Carmel, le toit d'une maison a été arraché et plusieurs personnes ont déjà été blessées.
Et puis on termine avec cette bonne nouvelle, la reprise du tourisme se confirme en Israël avec 258 000 entrées en janvier 2023.
Tout à fait, cette semaine, à l'invitation du ministère israélien du Tourisme, environ 160 voyagistes et agents de voyage du monde entier sont arrivés en Israël pour visiter le pays. La plupart découvraient le pays pour la première fois. Ils ont pu se familiariser avec Israël et rencontrer leurs collègues locaux. Et le ministère du Tourisme a publié ce chiffre très, très positif depuis janvier 2023, puisque Israël a quasiment retrouvé son niveau de tourisme d'avant le corona.
Merci Emmanuel Ada et bonne journée. Vous écoutez la matinale info RCJ, il est 8h13. Dans un instant, on restera en Israël pour évoquer les risques sismiques pour l'État hébreu. Ils sont sérieux et puis on parlera du travail des secouristes israéliens avec le lieutenant-colonel de réserve de l'unité de secours 669, Eric Seton. Il a participé à une opération similaire en 2009.
Vous avez un projet d'Alia ? Montez en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren Layedi Dout. Le Keren Layedi Dout répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les 6 premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren Layedi Dout. Keren Layedi Dout, 01 83 80 95 55 et yedidout.org.
Bain et déco. Donnez à votre salle de bain une dimension unique.
Bain et déco.
Votre cuisine ne ressemblera à aucune autre.
Le secret Bain et déco.
Un pôle d'architectes à votre écoute qui vous accompagne tout au long de votre projet.
Le plus, Bain et déco.
Les marques les plus prestigieuses et une seule ambition, l'exception. En neuf ou rénovation, nos propres équipes mènent votre projet de A à Z.
Bain et déco, deux showrooms de plus de 500 m², Paris 11e et Boulogne.
Bainetdeco.com.
Vous cherchez le soleil, la plage et une vraie ambiance de Pessard ? Cette année encore, partironisrael.com et les luxueux hôtels Fatal vous proposent des séjours de Pessard. Vol direct plus hôtel avec deux soirs de Seder à Tel Aviv. Netanya et Elat au meilleur prix. Pour Pessard, le soleil sera en Israël. Et vous ? Laissez-vous également séduire par nos séjours en vol direct Paris-Elat pendant les vacances scolaires de février avec 7 nuits d'hôtel à partir de 999 € par personne en formule all inclusive. Départ le 26 février 2023. Renseignements réservation sur partironisrael.com ou au 01 70 70 00 49. 01 70 70 00 49.
Vous connaissez peut-être l'histoire de la libération des Juifs soviétiques ? Je m'appelle Victoria Géraud-Velmont et je vais vous faire une confidence. Je pensais tout connaître de cet engagement et pourtant, je n'en savais rien. Alors je suis partie à la rencontre de celles et ceux qui ont fait partie de ce combat hors du commun. À la rencontre des Juifs d'Urs, podcast inédit, à retrouver dès le 20 février sur RCJ et sur toutes les plateformes de podcast. Alors à très vite sur RCJ.
Best Fenêtre, vous connaissez ? Oui ? Non ? Un peu ? Alors profitez de toute l'expérience de Best Fenêtre. Porte, fenêtre, portail, baie coulissante, volet roulant. Best Fenêtre, la qualité au meilleur prix. Des centaines d'installations et des clients heureux. Best Fenêtre, 01 43 61 31 16 et bestfenêtre.net. Entreprise certifiée RGE Calibat. Et en ce moment, profitez de ma prime Rénov. RCJ.
Alors que le bilan s'alourdit d'heure en heure en Turquie et en Syrie suite au séisme qui a frappé la région d'une magnitude de 7,8, la question de la préparation en cas de drame se pose en Israël. Le pays est-il prêt à faire face, lui qui se trouve près d'une faille ? Élément de réponse avec Églantine Delalleux.
Depuis les récents séismes en Turquie et en Syrie, la crainte s'installe en Israël. Le pays est-il capable d'affronter un tremblement de terre intense ? C'est la question que se pose la population et des experts. Un fort tremblement de terre peut infliger de gros dégâts dans toutes les régions de l'État d'Israël, a déclaré la direction du comité interministériel pour la préparation au tremblement de terre sur Ynet. Selon eux, environ 80 000 bâtiments israéliens ne sont pas construits dans les normes et près de 30 000 pourraient être détruits lors d'un séisme. Une question non prise au sérieux. Le comité ministériel chargé de la question des zones sismiques ne s'est pas réuni depuis 7 ans. Selon Ynet, plusieurs maires demandent une réunion du cabinet de Benjamin Netanyahou à l'image des réunions urgentes lors de menaces de roquettes ou pendant l'épidémie de Covid-19. Israël se situe le long de la faille du Levant, dite faille de la mer morte. Le dernier séisme majeur en Israël date de 1927 et avait causé la mort de 500 personnes. Près d'un siècle plus tard, les chercheurs de l'université de Tel Aviv ont estimé qu'un séisme d'une magnitude de 6,5 est à prévoir dans les prochaines années, qu'un séisme majeur frappe tous les 100 ans en moyenne. Depuis le début de l'année, 10 tremblements de terre ont frappé Israël d'une magnitude de 4 en moyenne.
Églantine Delalleux, pour en parler, nous sommes en ligne ce matin avec Eric Seton, lieutenant-colonel de réserve de l'unité de secours 669. Bonjour.
Bonjour.
Merci.
Bonjour aux auditeurs.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors avant de parler du travail sur place, juste cette question, est-ce que vous pensez que l'État d'Israël, puisque c'est le débat en Israël actuellement, est-ce que Israël est prêt à faire face à un séisme d'une ampleur semblable ?
C'est un peu difficile à répondre parce qu'effectivement, il y a des immeubles qui ont été construits avant 1985 et qui ne répondent pas encore aux normes. Et je crois qu'il faut un travail très sérieux pour savoir. Et également, il y a des endroits qui sont beaucoup plus dangereux, comme Elat, comme Beth She'an, comme Jérusalem. Donc je crois que le travail doit se faire de façon précise sur ces endroits-là et un peu plus tard sur les endroits moins dangereux.
Alors, vous étiez déployé en 1999 avec votre unité en Turquie lors du tremblement de terre qui avait fait 17 000 morts. Quand on arrive sur une zone de catastrophe, quelles sont les premières actions à mener ?
Alors, il y a trois niveaux. J'étais déployé avec l'hôpital de campagne. Il y a trois niveaux de réponse. Le premier niveau de réponse, c'est le niveau, ce qu'on appelle le front de l'arrière qui déploie les secouristes, qui déploie ceux qui sont capables de retrouver des blessés et des morts sous les débris avec les équipes de recherche. C'est la première réponse et elle doit se faire très 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 rapidement parce que les heures tournent et également avec le temps, la météo qui est très dure, le froid qui s'installe, les ressources des blessés se...
Eric s'étonne que nous avons perdu, on va le rappeler au téléphone, Eric s'étonne qui est donc lieutenant-colonel de réserve de l'unité de secours de Tsahal 669. Il avait participé en 1999 aux opérations de secours des Israéliens en Turquie lors d'un tremblement de terre qui avait fait à l'époque en moins d'une minute 17 000 morts. Eric s'étonne qui est avec nous.
Oui, je vous entends très bien.
Voilà, bah avec le téléphone, c'est effectivement mieux. Donc, vous parliez effectivement de la course contre la montre, finalement, avec effectivement, là, dans le cas de ce tremblement de terre-là, le problème de la météo.
Exactement. Donc, le premier déploiement, c'est le déploiement des forces de secours de récupération des blessés sous les débris. Donc, ça sort très, très rapidement dans les heures qui suivent. Dès que le tremblement de terre est connu et dès qu'il y a l'autorisation du pays, on envoie une équipe de sauvetage de secours du front de l'arrière. Le deuxième niveau, c'est un déploiement d'un hôpital de campagne qui permet d'abord de soigner les blessés et également de donner à la ville et aux habitants une infrastructure hospitalière et médicale qui a été détruite, qui généralement sont détruites ou sont très occupées également par les soins des blessés. Il faut pas oublier qu'il y a des gens qui sont sans habitation, qui sont des fois des gens malades, des enfants. On a eu des gens qui devaient passer des dialyses, des bébés, des accouchements, des opérations en urgence également, que ce soit orthopédique ou abdominal. Donc vraiment un hôpital de campagne avec toutes les capacités, et en 20 ans l'hôpital de campagne qui était un peu fait de briques et de brocs par l'armée est devenu un hôpital très très performant avec du matériel et avec un déploiement extrêmement précis et une capacité d'absorber des malades, des patients de façon très très importante avec des systèmes de triage médical, chirurgical et des capacités de chirurgie et de réanimation. Et de transporter également les malades, les patients graves ou les malades graves vers des hôpitaux périphériques. Ça, c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est de rétablir les infrastructures, que ce soit les habitations, les constructions, ou également les infrastructures médicales, c'est-à-dire réenseigner, ramener du matériel. Et ça également, donc sur ces trois niveaux, c'est la réponse s'organise. Et la première chose à faire, c'est d'assurer la protection des sauveteurs. Parce que les sauveteurs sont aussi en danger, que ce soit une population hostile, j'espère dans ces cas-là, pour l'instant en Turquie, pas tellement, je pense qu'on sera bien, ils seront bien accueillis, mais également la météo et également les tremblements de terre qui peuvent revenir pendant les travaux des équipes de secours.
Mmh. Alors, il y a de nombreux pays qui ont proposé leur aide à la Turquie et à la Syrie. Comment se coordonnent les différentes nations et les différentes équipes qui sont sur place? Est-ce qu'il y a un commandement, on va dire, centralisé?
Oui, tout à fait. C'est une très bonne question parce que c'est très, très important de coordonner les aides et que les secours ne se marchent pas les uns sur les autres et ne fassent pas le même travail en double. Donc, généralement, ceux qui coordonnent ça, c'est l'armée turque, c'est elle qui est sur place et qui donne également la répartition des travaux et suivant les besoins et suivant également les capacités que les différents secours, les différents pays amènent, que ce soit du matériel, des hommes, des infrastructures ou des capacités de traitement. Donc il est très très important que la coordination se fasse au niveau local par des forces locales qui savent, qui connaissent le terrain, qui sont en contact avec les forces, avec les dirigeants civils également, que ce soit les maires des villes qui ont des capacités également d'organisation. Donc tout ça généralement est fait par l'armée turque en collaboration avec les différents secours qui arrivent.
Merci Eric Seton. Je rappelle que vous êtes lieutenant-colonel de réserve de l'unité de secours 669 donc de l'armée israélienne. Merci à vous de nous avoir éclairé sur ce qui se passe sur place. Vous écoutez RCJ, il est 8h24, place maintenant à la chronique santé.
Chères auditrices et auditeurs, alors que j'étais à Bangkok la semaine dernière, mes compagnons de voyage ont été frappés de la présence de nombreuses échoppes de cannabis dans la rue ou sur les marchés. Dans un pays où, dans un passé très récent, la simple consommation de cannabis était sévèrement punie par la justice thaïlandaise avec une peine d'emprisonnement ferme très conséquente. Et étant le seul médecin de la bande, j'ai été questionné sur les bienfaits et les méfaits du cannabis et je me suis rendu compte de la grande ignorance du public concernant quelques points essentiels que je vais vous rappeler. Je parle bien évidemment uniquement des éléments médicaux et pharmacologiques du cannabis et ne m'avancerai absolument pas à discuter ici des principes du droit pénal et de son impact sur le trafic ou la criminalité. Le cannabis est donc une plante contenant plus de 500 composants, dont plus d'une centaine de molécules cannabinoïdes. Il n'y a donc pas un cannabis, mais une infinie variété d'espèces avec des molécules en proportions totalement différentes, dont la présence et la quantité va impacter l'effet, mais aussi la toxicité de la plante. Les deux composés cannabinoïdes sur cette centaine les plus connus sont le THC et le CBD. Le THC, pour tétrahydrocannabinol, est responsable des effets psychotropes et de la dépendance. C'est aussi la molécule qui est principalement en cause dans l'effet le plus dévastateur du cannabis, la survenue de troubles psychotiques comme la schizophrénie. Une étude anglaise publiée dans le Lancet Psychiatrie en 2015 avait montré que 8 à 24% des troubles psychotiques diagnostiqués pouvaient être imputés à la consommation de marijuana riche en THC. C'est énorme, car ce sont des troubles très difficiles à traiter une fois qu'ils sont installés, et c'est à mes yeux le principal danger de la consommation de cannabis. Le CBD, lui, pour cannabidiol, est plutôt protecteur contre les effets psychotropes négatifs du THC, et c'est ce composé, le CBD, qui est utilisé en médecine quand on parle d'usage médical du cannabis. En France, il est aujourd'hui légal, depuis le début de l'année 2022, de vendre ou d'acheter des feuilles et des fleurs brutes de chanvre dépourvues de propriétés stupéfiantes, c'est-à-dire des produits riches en CBD, mais qui ont une quantité négligeable de THC avec un taux qui doit être inférieur à 0,3%. Pour autant, le CBD, beaucoup utilisé aux États-Unis dans l'usage médical pour soulager des douleurs, soulager l'anxiété, etc., est-il vraiment efficace et est-il vraiment inoffensif? Alors efficace, bof. Il y a beaucoup d'études contradictoires, en particulier sur l'anxiété, sur les douleurs de cancer. Et en fait, la seule indication claire où le CBD est efficace, c'est une forme particulière d'épilepsie de l'enfant et du jeune adulte. Est-il inoffensif? Non plus, car dans des modèles animaux, le CBD a une toxicité sur le fœtus, sur le développement des organes, sur la tension artérielle. Il a une toxicité sur le foie qui est donc responsable de nombreuses interactions médicamenteuses. Et enfin, il existe une toxicité certaine du CBD sur la fertilité et les organes génitaux. Il est donc important de souligner aujourd'hui la méconnaissance des effets secondaires du THC ou du CBD, mais aussi de la centaine d'autres molécules cannabinoïdes présentes qui n'ont été que très peu étudiées et qui sont certainement responsables d'autres effets secondaires du cannabis, comme le risque connu augmenté de développer un cancer du testicule. Prenez donc bien soin de vous, s'il vous plaît, respectez votre corps et je vous souhaite une excellente journée saine et heureuse sur RCJ.
Merci à Marc-Olivier Timsit. Comme chaque matin, Jérôme Attal revient sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
Bonjour Rudy, bonjour à tous. Le 7 février 1964, 1564 rouleaux de la Torah, expédition sans précédent dans l'histoire juive, arrivent à la synagogue de Westminster à Londres. Là, ils ont été logés dans des berceaux numérotés, dans des racks spécialement construits, tandis que des travaux d'inspection et de classification ont été entrepris. Chaque rouleau a été scrupuleusement examiné. Des experts ont enregistré l'état du parchemin, l'état de la calligraphie, et si on pouvait le constater, l'âge et le lieu d'origine du rouleau. Ils avaient été réunis à Prague en provenance de synagogues de Bohême et de Moravie par le responsable nazi en charge du protectorat tchèque. Livres, images, vêtements brodés cérémoniaux, des objets en argent et en or ont également été collectés par les nazis. Bon nombre de ces articles sont maintenant dans le musée juif de Prague. Les rouleaux eux-mêmes gisaient entassés dans des synagogues désaffectées depuis plus de 20 ans. Les nazis les avaient réunis pour une exposition permanente comme relique d'une culture défunte. Nous sommes le 7 février.
RCG 8h29, voici la météo de Sylvie. Bonjour Sylvie.
Rudy, bonjour à tous. À Paris, il fera beau, du beau temps peu nuageux et des températures qui iront de 0 degré à 6 degrés au meilleur de la journée. À Lyon, un ciel nuageux ce matin qui se dégagera dans l'après-midi pour laisser place à un beau soleil, côté température entre 0 et 9 degrés. Et à Tel Aviv, un temps pluvieux avec de fortes rafales de vent, un ciel très nuageux, des averses et maximum 12 degrés. Bonne journée sur RCJ.
Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale à info. RCJ continue sur le DAB+ et puis pour la FM, rendez-vous à 11h avec Essentiel, les rendez-vous culture, Laurence Goldman, une spéciale Stéphane Zweig et puis on se retrouvera avec comme invité Rachel Kahn à midi dans RCJ Midi. Puis à 13h05, ça sera Post-Face avec Caroline Gutmann. Très belle journée sur RCJ.